Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre émission hebdomadaire sur l'actualité des territoires du Nord-Ouest et du Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. La ministre des Finances des TNO, Caroline Vazonek, a déposé ce mardi 22 février un budget 2022-2023 qui inclut des revenus estimés à 2,1 milliards et un surplus jugé substantiel de 131 millions.
This budget is not flashy, but it offers stability in a time of continued uncertainty.
Comme l'a résumé la ministre, aucun tape-à-l'œil ne vient agrémenter le document qui est axé sur la stabilité économique en cette période d'incertitude continuelle. Ce nouveau budget propose d'augmenter les dépenses de 43 millions par rapport à 2021. Un montant de 86 millions sera consacré à l'amélioration des programmes et 9 millions seront consacrés à l'atteinte des objectifs fixés par la 19e Assemblée législative, un exercice qui a été retardé par la pandémie.
The goal is not headlines to last the next few days or the term of this government. The goal is to influence the path of the Northwest Territories for the next 5 or even 10 years.
L'objectif n'est pas de faire les gros titres des prochains jours ou même dans le cadre de ce gouvernement. L'objectif est d'influencer l'orientation des territoires du Nord-Ouest pour les 5, voire les 10 prochaines années, a résumé la ministre Vazonek aux membres de l'Assemblée. Selon les estimations incluses au budget, les revenus augmenteront de 2,3 % par rapport à l'an dernier, grâce notamment à une hausse des transferts du gouvernement fédéral. Les surplus budgétaires s'annoncent substantiels pour les 5 prochaines années, selon les prévisions avancées. Ces montants serviront en grande partie à financer les grands projets d'infrastructure prévus pour les prochaines années. Ces projets d'infrastructure contribueront également à accroître l'endettement des territoires du Nord-Ouest. La dette auprès du gouvernement fédéral est présentement estimée à 1,675 milliards et est appelée à augmenter au cours des prochaines années. La limite d'emprunt du gouvernement fédéral est fixée à 1,8 milliard. Selon la ministre, malgré cette augmentation à moyen terme, la dette des territoires du Nord-Ouest demeure gérable. En décembre 2021, l'Assemblée a adopté le budget d'infrastructure le plus élevé de son histoire, un budget qui s'élève environ à 500 millions. Le but est d'appuyer la croissance économique des territoires du Nord-Ouest. Environ 25 % de ce montant sera puisé dans le surplus budgétaire et 25 % seront issus d'emprunts au gouvernement fédéral. Alors que notre économie s'apprête à reprendre son cours, en quoi aura-t-elle été affectée par la pandémie?
Le fait qu'on est encore dans la crise, même si on voit que les numéros se changent et s'améliorent, je suis encore consciente du fait qu'il y a beaucoup de petites, certainement les plus petites industries qui ont besoin encore d'aide, qui ont besoin encore de soutien. Alors,
comme l'indique la ministre Caroline Vazonek, nous sommes encore en crise. Toutefois, la pandémie ne saurait à elle seule expliquer la posture économique actuelle des TNO.
Ce qui est mis dans la grande vision de ce qui a changé pour le gouvernement, notre situation économique, je ne trouve pas qu'il y a vraiment eu un grand changement. On ne voit pas encore d'investissement de tellement nouveau. Quand on regarde ces numéros-là, on doit se demander si c'est parce que la pandémie ou parce que s'il y a quelque chose d'autre qui se passe.
Comme l'a rappelé Mme Vazonek, les mines de diamants du territoire, que la ministre décrit comme le moteur économique des 3 dernières années, vont cesser leurs activités d'ici 2030. Après 2 ans de brouillard pandémique, le gouvernement entend aussi reprendre la poursuite des objectifs fixés en début de mandat et continuer de s'attaquer aux enjeux qui affectent la population. La ministre a souligné à quelques reprises que la qualité des services ne dépend pas nécessairement de nouvel argent. Elle a fait valoir l'importance de l'exercice de renouveau gouvernemental qui est en cours et qui consiste à évaluer et à restructurer les coûts au sein des ministères. Parmi les faits saillants du budget, les dépenses en santé et en services sociaux s'élèvent à 595 millions, soit environ 23 millions de plus que dans le budget précédent. 7,1 millions de dollars couvriront notamment les déplacements pour raisons médicales et la réforme des soins de santé. Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation a droit à un budget de 358 millions, soit une hausse de 10 millions par rapport à 2021. Notons que 322 000 $ supplémentaires seront dirigés vers le financement de la prestation de services gouvernementaux en français. Aujourd'hui, à la mi-parcours de son mandat, la 19e Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest aurait déployé 23 % des mesures inscrites à la liste de ses priorités. Il y a un peu moins d'un an, en mars 2021, seulement 6 % de ses engagements avaient été remplis ou étaient en voie de l'être. La première ministre, Caroline Cochrane, a dévoilé le 23 février le deuxième rapport d'étape de son gouvernement qui détaille les priorités qui ont été atteintes jusqu'à maintenant ou qui sont en cours d'avancement.
In fact, we expect to be able to achieve the majority of our commitments within the life of this legislative assembly.
Selon la première ministre, ce gouvernement s'attend à remplir la majorité de ses engagements d'ici la fin de son mandat. Le gouvernement territorial a établi 22 priorités à atteindre. Selon le rapport, 23,5 % des engagements ont été tenus ou sont en bonne voie et 65 % des engagements seraient présentement en cours et devraient, lit-on, être réalisés d'ici la fin de la 19e Assemblée législative en 2023. 9 % des mesures que le gouvernement s'est engagé à prendre n'ont pas encore commencé. Et toujours selon le rapport, 2 % des engagements risquent de ne pas être respectés.
Past year, our government has continued to build and strengthen our relationships with indigenous governments.
Les efforts de collaboration entrepris avec les gouvernements autochtones sont évoqués à plusieurs reprises. Le gouvernement Cochrane s'est engagé notamment dans des réunions régulières du Conseil des dirigeants des TNO et du Forum des partenaires en matière de traités modernes et d'économie gouvernementale.
One of the specific initiatives underway at the officials' working group level is advancing the implementation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Le gouvernement estime également avoir fait progresser la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Pour la prochaine année, la 19e Assemblée législative s'engage à achever un plan de mise en œuvre au territoire du Nord-Ouest de la Déclaration des Nations unies. 2022 pourrait également être l'année de finalisation et du début de la mise en œuvre du plan d'action pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Des locataires des immeubles à logement Norseman Manor et Simpson House à Yellowknife auraient récemment rapporté de sérieuses préoccupations quant à la sécurité des lieux. Bien que des mesures auraient été apportées par le propriétaire Northview Wright au cours des dernières années pour améliorer la situation, des familles seraient toujours exposées à des situations inquiétantes dans leur environnement de vie. La députée Katrina Nokolby a exposé cet enjeu ce lundi 21 février à la reprise des travaux de l'Assemblée législative.
Both properties are privately owned by Northview REIT. However, several Housing Corporation clients have been placed in these buildings rather than in ones owned by the GNWT.
Elle s'est adressée à la ministre responsable de la Société d'habitation des territoires du Nord-Ouest, Policina, en soulignant que plusieurs familles bénéficiaires de l'aide au logement auraient été dirigées dans les immeubles dont il est question, plutôt que dans des immeubles appartenant au GTNO.
As such, this government, as a landlord, has the responsibility to ensure these homes are safe and suitable for habitation.
En tant que logeur, souligne la ministre, le gouvernement a la responsabilité de s'assurer que ces logements sont sécuritaires et convenables.
However, this is not always the case.
Plusieurs de ses électeurs lui auraient rapporté l'état lamentable et inquiétant des lieux.
I received numerous calls, emails and texts with photos, video and audio clips from housing clients in these particular buildings detailing broken windows, busted locks, filthy hallways and poor maintenance.
La députée indique avoir reçu plusieurs appels, courriels et messages textes accompagnés de photos, de vidéos et de messages audio qui témoignent de fenêtres brisées, de serrures forcées, de couloirs crasseux et d'un entretien défaillant.
Parents feel their children are not safe and report incidents of violence and substance abuse on a regular basis that no child should ever be exposed to. Told to call the police, residents say they don't show up.
Les parents sentent que leurs enfants ne sont pas en sécurité et rapportent des incidents de violence et d'abus de substances sur une base régulière, indique-t-elle. Des choses auxquelles aucun enfant ne devrait être exposé. Les résidents se font alors dire d'appeler la police, mais aucun agent ne se rend sur les lieux. Comme l'a souligné Katrina Nokolby, ces enjeux sévissent depuis plusieurs années. Elle appelle aussi à une meilleure collaboration entre les ministères.
The Housing Corporation needs to work with Health and Social Services to create family-friendly spaces where parents aren't afraid to walk down the hallway with their baby and needed supports are just next door.
Par exemple, dit-elle, la société d'habitation devrait collaborer avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour créer des espaces sécuritaires pour les familles, avec les ressources nécessaires à proximité.
Both the Housing Corporation and Northview are continuing to ensuring the safety of their residents.
La ministre responsable de la société d'habitation, Policina, a indiqué que plusieurs améliorations ont été apportées à ces immeubles par le propriétaire Northview pour accroître la sécurité des lieux.
The Housing Corporation has seen continuous improvement over these areas in terms of securities, such as expanding security checks, new key lock system, installation of new camera system, and increasing its numbers of security patrols at Norseman Manor.
Northview aurait notamment étendu les contrôles de sécurité dans ces immeubles, remplacé les systèmes de serrure, installé des caméras de surveillance et accru les patrouilles de sécurité au manoir Norseman. Selon la ministre, ces mesures représenteraient des investissements annuels de plus de 50 000 $ pour l'immeuble Norseman Manor.
I do have some constituents that are saying they have not seen security around the building, so I will follow up with the minister on that.
Madame Nokolby a rétorqué que certains de ses électeurs lui ont rapporté ne pas voir d'agents de sécurité autour de ces immeubles. La Société d'habitation des territoires du Nord-Ouest a récemment fait l'acquisition de l'immeuble Nordic Arms à Yellowknife, qui appartenait jusqu'à récemment à la commission scolaire YK1. Madame Nokolby a suggéré à la ministre de consacrer cet immeuble aux familles dans le besoin. Les députés des territoires du Nord-Ouest pourraient être conviés dès cette semaine à consulter le plan de sortie de l'état d'urgence sanitaire des TNO. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, a avancé cette échéance ce lundi 21 février, au premier jour de la session d'hiver de l'Assemblée législative. Les discussions entourant un relatif retour à la normale au territoire du Nord-Ouest auront occupé une bonne partie de cette première séance. Plusieurs députés ont questionné le gouvernement en chambre quant à la suite des choses pour la santé publique et pour l'économie.
We have been working on a plan, and I think that we will be in a position to share that with you by the end of the week and get your feedback on what we're doing and when we're doing it and how you think that will sit with your constituents.
Comme l'explique la ministre Green, les députés pourraient dès cette semaine pouvoir donner leur avis sur ce plan de sortie d'état d'urgence sanitaire et offrir leurs prédictions quant à la manière dont ce plan sera accueilli par les électeurs. La date de levée de l'état d'urgence sanitaire reste encore à déterminer. La ministre a fait cette annonce dans le cadre d'un échange avec le député de Hay River Sud, Rocky Simpson. Ce dernier a notamment souligné l'apparition d'une nouvelle souche du variant Omicron, la BA2, dont la rapidité de propagation serait accrue.
So can the minister tell the residents of the NWT what is her department's plan if another variant surfaces that causes severe health issues, causing health services to be overrun?
Que fera le ministère dans les prochains mois si une nouvelle éclosion devait affecter notre système de santé?
We are going to have health capacity set up, knowing that this disease is not going to go away and that outbreaks are likely to continue.
Comme l'a indiqué la ministre Green, des ressources seront mises en place dans l'optique où la COVID-19 est là pour rester et dans l'optique où les éclosions vont vraisemblablement se répéter. La ministre a évoqué un passage à une étape endémique. Elle a souligné que l'administratrice en chef de la santé publique va continuer à surveiller la COVID-19 pour conseiller le gouvernement. Selon un communiqué de presse émis le 24 février, une annonce sera faite ce vendredi 25 février à 16h concernant des changements aux arrêtés de santé publique en vigueur au territoire du Nord-Ouest. Cette annonce réunira, entre autres, la première ministre des territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, la ministre Green et l'administratrice en chef de la santé publique, la Dr. Camille Condola. Deux nouveaux cas de rage chez des chiens ont été détectés au cours de la mi-février à Toktoyaktuk, dans le nord du territoire. Cette maladie d'origine virale se transmet principalement par la morsure ou la griffure d'un animal infecté. Le problème, c'est que les symptômes se déclenchent tard, parfois trop tard, et la maladie est souvent mortelle si elle n'est pas traitée. Lambert Barraud-Guinet, journaliste à Média Ténois, est au micro. Bonjour Lambert.
Bonjour Thomas.
Lambert, si on parle de ces deux cas de rage à Toktoyaktuk, c'est qu'on observe, on observerait une certaine tendance là, depuis la dernière année.
Effectivement Thomas, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que les autorités essaient d'avertir la population de se méfier des interactions entre leurs chiens et les animaux sauvages, tout particulièrement les renards arctiques dans les régions du nord des territoires du Canada.
Et les autorités sont alarmées en ce moment là, par les cas qu'on a confirmés, les cas qui sont également suspectés. Qu'est-ce qui se passe exactement, Lambert? Pouvez-vous nous décrire un peu la situation?
Alors, en général, le nombre de cas avérés de rage dans les territoires du nord du Canada reste assez faible, globalement. Pour exemple, dans les territoires du nord, donc que ce soit le Yukon, les TNO ou le Nunavut en cumulé, le record du nombre de cas en une année date de 2001 avec 26 cas avérés de rage chez des chiens, des renards ou d'autres espèces. Mais, et c'est important, ça reste une maladie qui est très dangereuse et dont la présence est permanente. Son incidence dans la population de renards est périodique, c'est-à-dire que avec des années comme celles que l'on traverse en ce moment, qui sont considérées comme épidémiques par les vétérinaires et où un grand nombre de renards vont présenter des symptômes et vont pouvoir transmettre la maladie. C'est ce qui se passe notamment depuis l'automne 2021, d'après la vétérinaire en chef des TNO, Dr Naïma Jouta. Mais comme le précise le Dr Jouta, des mesures relativement simples permettent de limiter les risques. Premièrement, faire vacciner son chien chaque année est un excellent moyen de tenir la rage à distance, le vaccin étant très efficace. Et enfin, et évidemment, il faut rester vigilant quant au comportement des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, parce que la rage, contrairement à la croyance populaire, ne se traduit pas uniquement par un changement de comportement vers un comportement agressif, mais ça peut être très varié. Comme le rapporte la vétérinaire en chef, des gens lui ont raconté avoir vu des animaux infectés par la rage être, par exemple, terrorisés par l'eau, ou marcher à reculons, par exemple, voire devenir complètement apathique ou au contraire très affectueux sans aucune raison particulière. Le problème, et c'est ce qu'elle explique, c'est qu'une fois que les symptômes sont là, c'est que le virus a commencé à atteindre le système nerveux. Et au même moment qu'il atteint ce système nerveux, le virus attaque les glandes salivaires pour provoquer le symptôme relativement connu de la rage cette fois-ci, qui est l'hypersalivation. Le problème à ce stade, c'est que la maladie devient très rapidement létale et que l'hôte est contagieux et peut transmettre la rage.
Donc, c'est très important de connaître les signes. Hein. Il y a beaucoup de personnes au territoire du Nord-Ouest qui ont des chiens à la maison. Et qu'est-ce qu'on doit faire, Lambert, si on soupçonne un cas de rage chez un animal sauvage ou pire, là, chez notre propre chien?
Alors, si on rencontre un animal sauvage qui a un comportement étrange ou agressif, ou si votre chien a été attaqué par un tel animal, le premier réflexe, c'est d'appeler l'agent local de santé environnementale. Si vous êtes vous-même mordu, griffé ou êtes entré en contact avec un animal que vous soupçonnez d'avoir la rage, il faut tout de suite aller voir votre médecin. La rage reste une maladie mortelle si elle n'est pas traitée et l'apparition des symptômes peut mettre du temps à arriver, voire trop de temps pour pouvoir réagir. Dans tous les cas, si c'est possible, faites vacciner vos animaux de compagnie. Ça les protège eux, ça vous protège vous et ça protège votre entourage.
Bien, merci Lambert. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site web du ministère de l'Environnement. Il y a un onglet qui est consacré spécialement à la prévention de la rage. Lambert Barrault-Guinet, merci beaucoup.
Merci Thomas.
Février tire à sa fin et pour clore ce mois de l'histoire des Noirs, mon collègue Thomas Chabot s'est entretenu cette semaine avec Angélique Rusindana Omuniana, qui est notamment présidente du conseil d'administration du Collège nordique francophone. Vous avez peut-être lu certaines de ses chroniques dans le journal L'Aquilon. On l'écoute.
Ce que le mois représente pour moi a évolué en fait au fil des années. Donc, quand je commençais à m'y intéresser, c'était peut-être en 2016 ou 2015, je ne me rappelle plus très bien. Donc, à l'époque, c'était voir un peu, c'est ça, vraiment l'histoire du Canada ou du monde, hein, pour voir un peu l'apport des Noirs dans cette aventure humaine en général, et puis au Canada en particulier. Et puis, c'est sûr qu'à l'époque aussi, on regardait surtout les grandes figures, les gens qui ont des êtres assez exceptionnels, qui ont vraiment marqué l'histoire l'humanité en général. Mais ça, au fil du temps, je me suis rendu compte, puis je pense que beaucoup de gens aussi se sont rendu compte que c'est pas tellement ça qui est intéressant. Il faut pas être des êtres exceptionnels ou des surhommes, des LeBron James ou des Nelson Mandela pour qu'on parle de vous. On a juste être une personne qui vit dans la société en général. On veut être vu, on veut être entendu. Donc c'est ça. Donc, j'ai commencé à avoir plus dans notre quotidien. Donc, c'est ça. Donc, le mois de l'histoire, ce serait plutôt de s'opposer un peu et de voir où on est rendu en tant que société en général. Et puis, bon, en tant que noir, comment on vit, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on interagit bien avec nos voisins, nos camarades, nos collègues de travail, et puis bon, puis même des fois avec nos familles aussi, nos enfants, parce que en tant aussi qu'immigrants, écoute, on a aussi ce souci aussi de voir la première génération d'immigrants noirs dans le Nord, et puis comment nos enfants aussi, parce que on n'a pas tout à fait les mêmes visions aussi, donc c'est ça, donc je pense que c'est un bon temps pour réfléchir, et puis au-delà des grandes célébrations ou des figures exceptionnelles, mais dans notre quotidien, comment ça va. Donc, c'est ça, c'est un peu ça que ça représente pour moi. Un peu comme aussi, tu sais, quand on célèbre comme la fierté gay au mois de juin, ou c'est de se poser, de revenir en arrière, puis de dire, OK, comment ça va? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, faire le point, oui.
Et c'est très intéressant que vous parliez des enfants, car à pareille date, l'an passé, vous accordiez une entrevue avec Jean de Dieu Tuishime à l'Aquilon, et vous disiez qu'être membre d'une minorité visible au territoire du Nord-Ouest constitue un obstacle. Vous avez expliqué à notre journaliste que vous disiez souvent à vos enfants que ce ne sera pas facile, mais qu'il faut donner son meilleur. Est-ce que le constat est différent en 2022, et est-ce que vous donneriez un autre conseil?
C'est pas un combat comme tel, mais c'est surtout cette prise de conscience. Parce que des fois, on a tendance à se dire, oh, ici, c'est bien, ici, c'est on n'a pas les mêmes problèmes. Puis, tout à coup, quelque chose arrive, puis tu dis, oh, OK, c'est pas tout à fait ça encore. Donc, il reste encore des choses à faire. Et puis des fois, tu entends peut-être des choses que toi, tu vis pas directement, mais que d'autres personnes vivent dans d'autres circonstances, ou puis là tu dis, OK, c'est pas parce que moi je ne le vis pas que ça existe pas, donc je suis peut-être l'exception qui fait la règle. Donc je leur dis des fois d'être et puis des fois c'est ça, de valider un peu aussi avec les autres personnes, est-ce que ce que j'ai vécu est-ce que c'est du racisme, est-ce que ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre que moi, est-ce que c'est ma, parce que des fois on peut aller vite aux conclusions, alors que c'est vraiment pas ça, alors que c'est peut-être juste. Alors, c'est ça que je leur dis, ben, des fois, valide avec d'autres personnes, viens m'en parler, puis on va voir est-ce que c'est vraiment ça qui est arrivé. Que ce soit un obstacle systémique, parfois oui, parfois non. Moi, je pense que ça dépend des milieux, puis ça dépend de ce que les gens vivent au quotidien. Je pense que ça reste quelque chose aussi qu'on essaie de travailler avec en s'organisant mieux. Donc, peut-être en ayant une organisation comme, je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler, comme l'organisation comme le Backup North,
oui.
D'avoir vraiment des actions concertées, puis d'aller voir aussi si les gouvernements ou les organisations comme le syndicat ou tout ça, s'ils ont aussi déjà quelque chose en place où on peut travailler avec eux. Parce qu'ils reçoivent quand même aussi des plaintes par rapport au racisme, que ce soit au milieu de l'emploi ou même dans certains services, au service de la santé ou des choses comme ça. Alors,
il faut comprendre que la réalité est propre à chaque personne.
Tout à fait, exactement.
C'était Angélique Ruzindana Umunyana pour le mois de l'histoire des Noirs. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local pour Médias Ténois. Passez une excellente fin de journée.